et au Liban, et on va mentionner spécifiquement la maman de notre sœur Pascale qui habite là-bas, mais qui a visité l'église l'année dernière. Que le Seigneur l'accorde. C'est une dame qui est âgée et qui vit seule, donc que le Seigneur lui accorde sa protection. Seigneur, les images que nous avons vues hier de Beyrouth, c'est choquant. Seigneur, ce panache de feu, puis l'explosion ou les deux explosions terribles qui ont suivi, nous ont frappés, Seigneur, de plein fouet. Et nous ne pouvons, Seigneur, commencer notre temps ce matin sans penser à tous ces gens qui sont affectés par la situation actuelle à Beyrouth et au Liban. Le pays, Seigneur, était déjà en pleine crise sociale, économique, politique. Et là, Seigneur, il est frappé par ces deux déflagrations terribles, avec des centaines de morts et avec des milliers, Seigneur, de blessés, et encore plus, Seigneur, des centaines de milliers qui ont été, dont les demeures ont été détruites. Nous prions, Seigneur, pour eux. Nous prions, Seigneur, qu'en dépit des circonstances ô combien difficiles, tu puisses, Seigneur, te révéler à ce peuple, que tu puisses te révéler, Seigneur, à cette population, et que tu puisses leur accorder grâce et miséricorde. Nous savons que parmi eux, Seigneur, il y a nombre de nos frères et de nos sœurs. Alors nous te demandons, Seigneur, ta grâce pour chacun d'entre eux, ta protection et ta miséricorde, ô Dieu. Ce que l'homme n'est pas capable de faire, ce que l'homme ne veut pas faire, ce que l'homme ne peut pas faire, cela t'est encore possible à toi. Alors nous prions, Seigneur, que tu daignes intervenir et aider, Seigneur, ces bien-aimés dans ce contexte terrible qu'ils traversent. Nous voulons te présenter de façon spécifique la maman de notre sœur Pascale. Cette dame, Seigneur, qui nous a visités l'année dernière, qui a tellement apprécié l'Église et chez qui, Seigneur, tu fais aussi une œuvre dans son cœur. Nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main, que tu la protèges, que tu la sécurises, que tu l'apaises, ô Dieu, et que tu pourvoies, Seigneur, à tout ce dont elle a besoin dans ce contexte, Seigneur, qui est difficile. Étonne-la, Seigneur, par la grâce que tu lui accordes. Étonne-la, Seigneur, par la miséricorde dont tu fais preuve à son égard. Et nous te demandons, Seigneur, tant pour elle que pour l'ensemble de ses proches, accorde-leur la paix, Seigneur. Accorde-leur, Seigneur, d'entendre ta voix et de sentir ta présence même dans ce contexte particulier. Et d'avance, Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais envers notre bien-aimé. On veut maintenant, Seigneur, te présenter ce temps de méditation, ce temps, Seigneur, de partage. Instruis-nous, guide-nous et dirige-nous dans ce moment de réflexion. Montre-nous ton cœur et ta pensée pour nous. Et puisses-tu trouver en chacun d'entre nous des cœurs qui te sont complètement acquis et des cœurs, Seigneur, prêts et disposés à faire ta volonté. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je relis le verset thème pour cette semaine dans Michée au chapitre 6 et le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et aujourd'hui, la section principale sur laquelle nous nous arrêtons, que tu pratiques la justice, que tu pratiques la justice. Alors, deux termes importants pour nous ce matin, pratiquer puis justice. Pratiquer, c'est le terme asa. Asah, je répète, Asah, Asah, qui se retrouve 2633 fois dans l'Ancien Testament. Et le deuxième terme, le terme justice, mishpat en hébreu, donc M-I-S-H-P-A-T, je répète, M-I-S-H-P-A-T, et qu'on retrouve cette fois-ci 421 fois dans l'Ancien Testament. Alors, comme je disais au cours des dernières journées, la plupart des mots que nous étudions cette semaine sont des mots usuels dans la parole de Dieu, des mots qu'on retrouve régulièrement, voire même très régulièrement. Hier, il y avait le terme éternel qui apparaissait plus de 5700 fois dans l'Ancien Testament. Donc, c'est donc des notions de base, des notions inhérentes à la vie chrétienne et à la vie d'enfant de Dieu que nous étudions cette semaine. Le terme « asa » pratiqué, c'est un terme qui, si on le traduisait dans un langage contemporain, dans un langage d'aujourd'hui, quelque chose qui voudrait dire « faire », accomplir, produire, travailler, préparer, presser, écraser et extraire. Le terme justice, mishpat, si on le traduit en français courant, ça serait des jugements, des ordonnances, un verdict, une décision, des commandements, des ordres. On nous parlerait par la suite de droiture, de rectitude, de ce qui est juste et équitable, et enfin des droits, des privilèges et des devoirs de quelqu'un. On va reprendre ces différentes notions au cours des prochaines minutes, mais je vous les disais pour ceux qui prennent des notes tout de suite. Alors le terme « asa », on va sortir 5 points de ce terme, donc du terme « pratiquer ». Pratiquer la justice. Ce que Dieu veut, c'est que l'on puisse accomplir. Pratiquer, c'est le terme accomplir. Donc, accomplir la justice. Ça veut dire qu'en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait pas simplement avoir un discours de justice, mais la justice devrait être une pratique courante de notre vie. Ça devrait être un mode de vie. Il y a des gens qui proclament la justice, qui scandent la justice, qui font la promotion de la justice, mais dans la pratique de tous les jours, ça peut être un discours, on va dire, discordant, si vous me permettez l'aspect un peu redondant du terme. Donc nous, au lieu de simplement proclamer la chose, et je crois que dans un contexte particulier, il est bon de proclamer la chose, mais il est toujours mieux encore de pratiquer la chose. C'est un peu comme une expression qui me fait rire lorsque les gens nous disent « oui, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant ». C'est comme illogique d'être croyant et de ne pas être pratiquant. Hier, on disait, mais si on comprend qui est Dieu, si on sait qui est Dieu, si on sait que sa parole est véridique, si on sait qu'il est réellement celui qu'il dit qu'il est, alors il y a aucun sens de ne pas vivre pleinement pour lui. Donc, il y a aucun sens de proclamer qu'on est croyant et de ne pas pratiquer notre croyance. Sinon, ça veut dire que j'ai pas vraiment cru, parce que sinon je comprendrais ce que je suis supposé faire. Mais par rapport à la justice, c'est un peu la même chose. La proclamer, c'est une chose, mais la vivre en est une tout autre. Il y a quelques semaines, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, avec les conflits sociaux qu'on y voit s'exacerber actuellement, et je parlais sur la thématique du racisme, de l'ethnocentrisme, de la distanciation raciale qui peut exister. Et je montrais une photo des mains de mon épouse et moi qu'on a pris il y a déjà quelques années. Et je disais, si ça, ce n'est pas une normalité dans ta vie, tu as un problème. C'est beau de proclamer que tu n'es pas raciste, c'est beau de proclamer que tu es en faveur de la cohésion et de l'unité des races et des ethnies, mais si pour toi voir un couple mixte, et je disais, je poussais encore plus loin, Si devoir, si c'est pas une normalité pour ton fils et ta fille, c'est un problème. Si cette photo-là, tu ne la voulais pas comme étant ton fils et ta belle-fille, ou comme étant ta fille et ton beau-fils, mais il y a un problème. Donc pour la justice, c'est la même chose. C'est une chose de proclamer la justice, mais c'est une autre chose de la vivre. Et lorsqu'on parle du terme Asa, ça veut dire que moi-même, je dois être partie prenante de vivre la justice de Dieu et la justice des hommes. Je ne dois pas simplement la proclamer, mais je dois la vivre. Tout à l'heure, je rigolais, il y avait un copain qui a mis une photo où il fait du sparring en boxe. Et actuellement, au Québec, le sparring est interdit. Et je lui disais, mais ça, c'est pas interdit actuellement de faire des combats. Et il me disait, mais je dirais simplement que c'est une photo qui est vieille. Et là, je lui disais, mais tu oses préméditer un mensonge éventuel et en plus de ça, tu le dis à quelqu'un que tu sais être un pasteur. Et c'était simplement une blague entre lui et moi. Mais en même temps, il y a une certaine portion de vérité là-dedans. Je veux dire, il y a une question de vivre et de payer les conséquences ou d'accepter les conséquences de vivre dans une quête de justice. C'est une chose de la proclamer, c'est une autre chose de la vivre. Donc, Asa, accomplir, pratiquer la justice et non pas simplement la proclamer. Asa veut dire aussi travailler à quelque chose, œuvrer à quelque chose. Donc, en tant que croyant, je dois travailler à ce qui est juste. Je dois comprendre ce qui est juste aux yeux de Dieu et ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Et en tant que croyant, je suis appelé. Dans les jours qui ont précédé, on a dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, ce que l'Éternel demande de toi. Et aujourd'hui, on nous dit, c'est que tu pratiques la justice. Donc, que tu travailles à ce qui est juste aux yeux de Dieu. Trop régulièrement, on travaille à des choses qui nous intéressent, à des choses qui nous plaisent, à des choses qui nous profitent, mais on ne s'interroge pas où on n'interroge pas le Seigneur à savoir, mais qu'est-ce qui t'est profitable à toi? Pourquoi voudrais-tu que je travaille? À quoi voudrais-tu que je travaille? Et ce à quoi va être à la justice même de Dieu. Donc, accomplir la justice, travailler à la justice, faire en sorte qu'elle puisse s'étendre. Asa veut dire aussi préparer. Donc, préparer la justice. Ça veut donc dire qu'il est dans ma tâche de travailler à bâtir un environnement, que ce soit dans mon cercle immédiat, que ce soit au sein de ma famille, si je suis un parent ou même si je suis un enfant, de travailler à ce que la justice règne dans mon milieu de vie, dans mon milieu de travail, dans mon église, dans mon cercle social, et si on en a effectivement la possibilité de voir aussi comment je peux bâtir un environnement sociétal, donc un environnement de société, comment je peux m'impliquer à faire en sorte que notre société soit un environnement, un lieu de vie qui soit plus juste. Accomplir, travailler, préparer. Asa veut aussi dire presser, donc pousser la chose, donc faire la promotion de ce qui est juste. Tout à l'heure, on a vu qu'il fallait pas simplement la proclamer, qu'il fallait la vivre, la justice, mais il nous faut aussi la publiciser. Il faut qu'on puisse comprendre, qu'on puisse apprendre, qu'on puisse enseigner, qu'on puisse proclamer la justice. Entre les hommes, la justice entre nous et Dieu. N'oublions pas que nous sommes des ambassadeurs qui font ou qui travaillent à la réconciliation entre les hommes et Dieu et entre Dieu et les hommes. Donc nous devons rétablir la justice de Dieu ici-bas sur terre. Lorsqu'on dit que ton royaume vienne ou lorsqu'on dit que ton règne vienne dans le Notre Père, on est en train d'établir, voilà Seigneur, nous voulons que ton code civil, nous voulons que ta jurisprudence, nous voulons que l'ensemble de tes lois, de ta législature puisse s'établir ici-bas sur terre. Donc lorsque nous proclamons l'évangile, lorsque nous proclamons le royaume de Dieu, nous proclamons aussi les règles, les commandements, les fonctionnements du royaume de Dieu. Et notre volonté, c'est que ce règne-là de Dieu puisse s'implanter ici-bas sur terre parmi nous. Nous savons qu'il y a un conflit ouvert entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Nous savons qu'il y a un conflit ouvert entre Dieu et l'ennemi, entre Dieu et le diable. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas attendre que l'Apocalypse survienne, nous ne devons pas attendre que le Seigneur établisse une fois pour toutes et pour l'éternité son règne en chassant le diable et en le précipitant dans la géhenne, dans les temps de feu. Mais déjà, il est de notre devoir de travailler à l'établissement du royaume de Dieu. Nous faisons un peu le travail de Jean-Baptiste qui proclamait dans le désert et qui préparait un chemin pour le Messie. Nous faisons de même. Le Seigneur va revenir et nous sommes des Jean-Baptiste qui proclament le retour de Christ et qui proclament l'établissement du royaume de Dieu. Donc, accomplir la justice, travailler à la justice, préparer la justice, prêter, promouvoir la justice. Et l'autre terme qui est intéressant, extraire. Ici, quand on parle d'extraire, on parle comme de ce fruit qu'on va passer dans un pressoir pour en extraire le jus. Dimanche, je parlais de la vigne et du vin nouveau. Et je disais que le vin nouveau est pas celui qu'on achète en bouteille au mois d'octobre ou au mois de novembre, mais le vin nouveau est tout simplement cette étape entre le vin, le raisin et puis le vin, où on vient juste de presser le fruit pour en extraire pleinement le jus. Un peu lorsqu'on amène des olives au pressoir et on écrase le fruit pour en extraire le jus. Un peu comme quand vous prenez une orange et que vous la passez, je me rappelle plus comment, je pense un presse-orange, quand vous la pressez pour en extraire un jus frais. Donc ici, on parle de cette même notion pour extraire la justice de par notre entourage, pour extraire des gens qui nous entourent la justice, pour faire en sorte que notre présence puisse susciter la justice autour de nous. Être des agents de contagion, et là je sais que c'est peut-être pas le terme à utiliser dans le contexte qu'on vit actuellement avec la COVID-19 et tout ça, mais est-ce qu'on pourrait pas être des agents de contagion, mais pour une bonne contagion, une contagion de la justice de Dieu, qu'on puisse contaminer, qu'on puisse répandre dans notre environnement, dans notre entourage, la justice de Dieu, et faire en sorte que les gens, lorsqu'ils sont à notre contact, eux-mêmes sont saisis par cette quête, par ce désir, par ce vouloir d'expérimenter la justice et de voir la justice se répandre. Donc, on soit des instruments non seulement pour accomplir nous-mêmes la justice, pour proclamer et enseigner la justice, mais de surcroît à cela, pour susciter la justice aussi dans les gens qui nous entourent et qui nous fréquentent, afin que de leur vie aussi puisse être extraite la justice tant de Dieu que la justice parmi les hommes. Donc, accomplir la justice de Dieu, tu passes à des actions, tu accomplis, tu vis toi-même la justice dans toutes tes actions de tous les jours et dans tes décisions et dans tes paroles. Tu travailles à la justice, donc tu travailles pour établir la justice autour de toi. Tu travailles, tu prépares un environnement dans lequel la justice peut régner. Tu presses, tu proclames, tu annonces, tu pousses la justice autour de toi et tu fais en sorte de susciter la justice chez tes concitoyens et chez les personnes qui t'environnent et qui t'entourent. Maintenant, parlons de justice, parce que c'est quand même un terme qui est un peu vaste, qui est un peu vague, et à travers le terme mishpat, on va voir trois définitions même de la justice. Donc, mishpat, premièrement, dans le sens d'ordonnance, de prescription, de commandement. Ici, on parle de la justice de Dieu dans le sens de ses commandements divins. Savoir reconnaître ce qui est saint de ce qui n'est pas saint, savoir reconnaître ce qui est pur de ce qui est impur, savoir reconnaître ce qui est approuvé de ce qui est désapprouvé, savoir reconnaître ce qui est bon de ce qui est mauvais, donc savoir reconnaître lorsque une chose est péché et proclamer effectivement que cette chose est péché. Donc, la Bible nous appelle dans ce verset que tu pratiques la justice, donc que nous sachions reconnaître ce que Dieu approuve et ce que Dieu désapprouve afin de vivre dans l'approbation de Dieu, afin de chercher à vivre dans l'approbation de Dieu. Donc, savoir reconnaître ce qui plaît et qui déplaît à Dieu et prendre les décisions qui s'imposent pour mener une vie qui est agréable et approuvable aux yeux de notre Seigneur. Deuxième pensée quant à Mishpat, on parle maintenant ici de droiture, de justice et d'équité. Droiture, justice, équité, égalité, le slogan la devise de la France depuis la Révolution française, fraternité, égalité et liberté. Et cette égalité, c'est donc que tous les hommes devant la loi soient égaux. Et ici, on parle donc d'une société ou d'une justice sociale, d'une société où la justice entre les êtres humains règne. Et c'est probablement une notion de l'Église qu'on a perdue en Occident, particulièrement dans la population caucasienne. Pourquoi je dis ça? Parce que on sait qu'aux États-Unis, l'Église a eu beaucoup à faire dans le mouvement social, dans le mouvement de justice sociale, notamment avec l'émancipation de la population noire américaine. On a eu de grands hommes qui se sont élevés, qui étaient pour la plupart des croyants et qui étaient pour bon nombre d'entre eux des serviteurs de Dieu, le plus célèbre étant Martin Luther King. Donc Martin Luther King se levait pour la justice de Dieu et de surcroît à cela, pour une justice sociale. Voilà pourquoi je dis principalement quelque chose qui a été oublié au niveau de l'Église occidentale et caucasienne, donc l'Église occidentale et blanche, parce que foncièrement, on faisait partie des bien nantis, on faisait partie de ceux qui étaient bien positionné socialement parlant, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de lutte sociale. Et ce faisant, ben on s'est contenté de ce qu'on avait, on s'est assis sur notre bien-être et sur notre bonheur, et on a probablement, même fort probablement, même assurément, oublié de combattre pour la justice sociale pour nos frères et nos sœurs. Et il est vrai que même dans le mouvement social aux États-Unis, il y a des croyants, il y a des hommes et des femmes blanches qui se sont levés à côté de la population noire américaine pour manifester. Certains d'entre eux ont été battus, certains d'entre eux sont morts pour avoir affiché leur désir d'une justice étendue à l'ensemble de la société, mais foncièrement, la population blanche est restée de côté. Si elle n'était pas toute en faveur du racisme et toute en faveur de la ségrégation, ben, il y en a plusieurs qui n'ont quand même pas fait leur travail pour promouvoir la justice sociale et qui sont restés silencieux. Et je crois que c'est quelque chose que l'Église doit réapprendre, sans pour autant tomber dans un club social ou dans un mouvement social ou tout simplement dans un mouvement de contestation perpétuelle et permanent. Nous ne sommes pas un groupe social, nous ne sommes pas revendicateurs de cette terre, mais nous sommes des habitants de Jérusalem céleste. Mais malgré tout, la Bible nous dit, parce que nous sommes croyants, de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de l'indigent et de l'étranger. Quatre catégories qui sont parmi les plus fragiles. Donc la veuve qui n'a plus d'époux et qui se retrouve à subvenir aux besoins de ses enfants, l'orphelin qui n'a plus de parents, l'étranger qui se retrouve dans une terre éloignée, dépourvu de ressources, et l'indigent, celui qui est pauvre et qui n'a pas les moyens financiers pour faire sa place, pour se positionner comme les autres personnes pourraient faire. C'était un mandat de l'Église autrefois. C'était un mandat du peuple de Dieu. Mais on dirait que parce que le gouvernement a pris une partie de ses responsabilités, et c'est tout à fait correct qu'il le fasse, mais nous, en tant qu'Église, on dirait qu'on a perdu cette notion et la compréhension de cette importance du travail social, de la justice sociale qui est la nôtre. Et c'est probablement quelque chose qui va nous être important d'étudier et important pour s'impliquer dans l'avenir pour l'Église, la justice sociale. Finalement, troisième point concernant Mishpat, on parle de droits, de privilèges et de devoirs. Les droits, les privilèges et les devoirs, habituellement, c'est des termes qu'on attribue à des citoyens d'un endroit ou à des membres d'un club, à des membres d'un groupe social quelconque. Ici, on parle de droits, de privilèges et de devoirs. J'aimerais le ramener par rapport au royaume de Dieu. Nous sommes des habitants du royaume de Dieu. Nous sommes des concitoyens du royaume de Dieu. Alors, dans ce royaume de Dieu, il y a des droits, il y a des privilèges et il y a des devoirs. Et il est important que le croyant puisse non seulement comprendre les privilèges et les grâces qui lui sont accordées parce que nous sommes des enfants de Dieu, mais il est important aussi de connaître ses droits dans le royaume de Dieu pour savoir dire au diable « tu te trompes » ou « tu mens », pour savoir dire au diable « ton action se limite à tel endroit, tu n'as pas le droit d'aller plus loin », pour revendiquer les territoires qui sont nôtres, pour revendiquer les domaines qui nous appartiennent parce qu'enfants de Dieu. Et enfin, qu'on puisse aussi non seulement savoir quels sont nos privilèges en tant qu'enfants de Dieu, les grâces et les bénédictions qui nous sont accordées, quels sont les droits que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, mais bien sûr, comme tout concitoyen, dans n'importe quel royaume, dans le royaume de Dieu, nous avons aussi des devoirs. Et il est important de connaître ces devoirs afin de les accomplir. Un bon citoyen s'acquitte de ses tâches et s'acquitte de ses devoirs. Un bon citoyen du royaume de Dieu connaît ses droits, connaît ses privilèges et s'acquitte des devoirs qui sont siens par rapport au royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que la justice, il ne fallait pas simplement la proclamer, mais il fallait l'accomplir dans notre vie de tous les jours. Il fallait travailler à implanter ce qui est juste. Il fallait préparer notre environnement à la justice de Dieu. Il fallait presser, faire la promotion de la justice de Dieu de façon orale, verbale. Il fallait aussi être des agents qui suscitent la justice chez nos concitoyens et chez les gens qui nous entourent, quel que soit le cercle d'influence qui soit le nôtre. Et enfin, pour la justice, on a donc parlé des commandements de Dieu, des prescriptions telles que mentionnées dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle des commandements, des ordonnances de Dieu. On a parlé aussi du Mishpat quant à la justice et l'équité sociale, donc une justice sociale dans l'Église, vers laquelle l'Église doit tendre, retourner et sur laquelle l'Église se doit de réfléchir et de se positionner. Et enfin, on a parlé de Mishpat comme étant des droits, des privilèges et des devoirs, donc la justice du royaume de Dieu qui s'applique sur moi et sur la vie de tout croyant. Alors connaître nos droits, connaître nos privilèges, mais aussi connaître et accomplir nos devoirs envers le royaume de Dieu. Alors c'était cela qu'on avait pour nous ce matin. J'espère que ça vous a instruit pour aujourd'hui, que ça vous poussera dans vos réflexions et que vous serez en mesure de pratiquer la justice de Dieu aujourd'hui et d'être des agents de bonne contagion autour de vous qui répandent la justice de Dieu et qui suscitent la justice de Dieu auprès de chacune des personnes qui vous entourent. Alors prions et après ça nous saluerons les personnes qui se sont jointes à nous. Merci Seigneur pour ce temps où tu nous rappelles l'importance d'être citoyen du royaume de Dieu, ce que ça représente, ce que ça sous-entend pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour nous en tant que tes serviteurs. Nous prions Seigneur que nos actions, nos paroles puissent bien refléter ton royaume et que nous soyons Seigneur, des instruments entre tes mains pour que la justice de Dieu s'établisse, pour que le règne et le royaume de Dieu s'établissent sur cette terre, dans nos communautés. Et plus encore, Seigneur, nous prions que ton Église puisse comprendre, Seigneur, toute la portée de son action, qui n'est pas simplement spirituelle, mais qui est aussi, Seigneur, quant à la justice sociale, quant à l'équité entre les concitoyens qui nous entourent, que tu nous permettes, Seigneur, de prendre position, d'avoir l'hardiesse et le courage de nous positionner et d'être des instruments entre tes mains. Nous ne sommes pas, Seigneur, effectivement, des groupes de pression, nous ne sommes pas, Seigneur, des syndicats, nous ne sommes pas, Seigneur, des groupes sociaux, nous sommes des représentants du royaume de Dieu et nous voulons que le royaume de Dieu puisse faire entendre sa voix à travers la bouche de tes enfants, quels qu'ils soient. Nous prions aussi, Seigneur, pour nous, personnellement, que nous puissions non seulement connaître les droits que nous avons en tant qu'enfants de Dieu dans le monde céleste, dans le monde spirituel, que nous puissions aussi comprendre, Seigneur, les privilèges qui nous sont accordés, les grâces qui nous sont accordées, mais aussi, Seigneur, que nous comprenions et que nous accomplissions les devoirs qui sont nôtres en tant qu'enfants de Dieu et en tant que citoyens du royaume de Dieu. Alors bénis ma sœur ce matin, enrichis ses pensées par ta présence et par ta grâce. Éclaire-la, Seigneur, sur ce que nous avons dit ce matin, qu'il en soit de même pour mon frère, instruis-le, puisses-tu, Seigneur, le pousser de l'avant pour qu'il soit un instrument entre tes mains, un instrument de justice entre tes mains. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, juste voir qui s'est joint à nous. On a Linda, Dieu te bénisse. On a Jimmy, Dieu te bénisse, Myriam avec Donald, Jude, bonjour, Caridad, bonjour, Dieu vous bénisse, content de vous voir avec nous. Bonjour à Didier, bonjour à Max et Noémie, bonjour à la sœur Florie, au frère Louis, bonjour Rebecca, Dieu te bénisse, bonjour à Chanel, bonjour à Lucie, on a P.O. Bourque, que je ne connais pas, mais soyez bénis, que Dieu vous bénisse, content de vous avoir avec nous. On a Denise Saint-Louis avec Gérard de Saint-Adèle. On a Marie-Belle Lopez, ah mais ça c'est Astrid, Dieu te bénisse Astrid. On a Chantal et Léo. On a Claire Paulette, que je ne connais pas, que Dieu vous bénisse. On a Sophie de Gazon, c'est la sœur Rosanie, le frère, son époux, le frère Jean-Gilbert, soyez bénis. On a Aneris, God bless you, Dios te bendiga, Dieu te bénisse. Aneris, je lui parle dans les trois langues, c'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil dans les trois langues. Donc, simplement vous rappeler aussi, avant que je ne vous laisse ce matin, tout d'abord, merci d'être là. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous, sinon prêcher comme une voix dans le désert sans personne, ça serait ennuyant, ça serait tristounet pour moi. Donc je suis content que vous soyez là matin après matin. Simplement vous rappeler aussi que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche ont cours. On a dit que actuellement on va demander aux ados et aux jeunes adultes, donc de 12 ans à 30 ans, de se joindre à l'Assemblée Jeunesse. Donc, l'Assemblée de Jeunesse débute ce vendredi à 19h30. Vous pouvez vous rendre à l'église si vous avez entre 12 et 30 ans. Et le frère Samy, avec son équipe, sera là pour vous accueillir et vous bénir dans ce temps de confraternité et ce temps de réunion. Pas besoin d'inscription pour l'Assemblée Jeunesse. Toutefois, pour l'assemblée du dimanche matin, donc on n'est plus restreint à certains groupes, on limite simplement pour faciliter ou permettre à l'ensemble de la congrégation d'être couverte. On demande à ce que les inscriptions soient limitées aux gens de 30 ans et plus. Donc, si vous avez 30 ans et plus, que vous soyez seul, que vous soyez en couple, c'est pas un problème, c'est plus un critère. Donc, maintenant, 30 ans et plus, vous pouvez soit écrire à l'adresse courriel de l'Église, secrétariat EAJC@commercial.gmail.com. Donc, secrétariat EAJC@commercial.gmail.com. gmail.com. Vous donnez votre nom, votre numéro de téléphone ou votre adresse courriel où on peut vous contacter. Et vous nous dites le nom de toutes les personnes qui viennent avec vous. Bien sûr, ces personnes doivent aussi être âgées de 30 ans et plus. Vous pouvez aussi le faire par le répondeur de l'église au 514-273-8295. Là encore, vous nous dites votre nom, votre numéro de téléphone et le nom de chacune des personnes qui vous accompagnent. Et vous devez attendre tant pour le courriel que pour le téléphone, vous devez attendre une confirmation de notre part parce que s'il y a trop d'inscriptions, on ne peut pas permettre à plus de 100 personnes de rentrer dans le local avec les normes de distanciation qu'il y a actuellement. Donc, si vous voulez venir, vous avez 30 ans et plus, vous demandez une réservation soit par téléphone, soit par courriel, tel qu'on vient de le mentionner. Et vous attendez, vendredi, vous allez recevoir un appel de l'Église, d'une personne dûment appointée à la chose. Habituellement, c'est la sœur Patricia. Donc, vous attendez votre confirmation. Il se pourrait qu'il y ait trop de demandes d'inscription et qu'on soit obligé de repousser certaines personnes à la semaine suivante. Donc, vous déposez votre demande et on vous rappelle lundi. Les noms commencent à défiler sur le répondeur et sur la boîte vocale. Donc, assurez-vous d'appeler le plus tôt possible et nous, on vous contacte vendredi pour confirmer ou pour repousser votre demande à la semaine prochaine. Donc, j'espère que que je n'ai pas été trop compliqué. J'espère que vous avez compris. Et vous pouvez donc appeler dès ce matin. Déjà, c'est en cours de route. Donc, vous le faites et puis nous, on vous rappelle vendredi. Alors, sur ce, c'est tout pour ce matin. On vous rappelle l'assemblée de ce soir avec le pasteur Sergio, l'étude biblique sur servir Dieu en temps de défi. Donc, on vous invite à être là pour étudier avec le pasteur Sergio. C'est une étude qui tourne autour du livre de Marc et c'est enrichissant. Et on est content que vous soyez là encore connecté avec le pasteur Sergio pour ce temps d'enseignement et d'étude. Alors sur ce, passez une bonne journée. Pratiquez la justice dans les différentes facettes que ça représente et qu'on a étudiées aujourd'hui. Soyez bénis et pour nous, on se retrouve demain matin pour notre prochaine étude ou prochaine bénédiction matinale. Alors, passez une bonne journée tous et que Dieu vous bénisse.